Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, nous recevons tous les soirs des artistes pour discuter avec eux pendant une heure, des artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, la réalisatrice Ariane Doublet.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du bouta, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richaud.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce sont d'autres images. Elles ne viennent pas contre les images impressionnantes des camps de réfugiés à Paris, contre les images de Calais, contre les images impressionnantes des navires de sauvetage, contre les images insoutenables des enfants morts. Elles viennent compléter le tableau, le complexifier, ouvrir le regard. Ariane Doublet, vous filmez un village dont le maire décide, quitte à y perdre politiquement, de se porter candidat à l'accueil d'une famille syrienne au moment où François Hollande en fait la proposition. Une goutte d'eau dans l'océan, dit ce maire, mais une goutte d'eau quand même. À Saint-Jouin-Bruneval, en Normandie, certains se démèneront pour repeindre un appartement, le meubler, enseigner le français, aider pour les papiers. D'autres râleront, mais rarement devant votre caméra. Voilà. C'est un film qui regarde l'époque et renvoie la démesure de certaines peurs au grotesque, sans juger pour autant. Absolument au contraire. Les réfugiés de Saint-Jouin sera diffusé le 23 octobre prochain sur Arte à 21h45. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Et comme le veut la tradition désormais, on pourra revoir ce film pendant un mois via le site internet d'Arte.
Ils sont pas contre sur le principe, mais ils sont pas au courant de ce que tu veux faire. Alors, il faudrait savoir un peu ce que tu veux faire. C'est ça.
Hein? Et donc c'est des gens que tu vois à l'école
à l'école. Beaucoup à l'école, au passage coûté. Des jeunes surtout.
Des jeunes parents.
Des jeunes ménages.
Et ils craignent de quoi, la tranquillité?
La tranquillité surtout. Bah, ce qu'ils ont peur, c'est que toi, que tu amènes une famille, puis du jour au lendemain, il y en a 10-15 qui arrivent, et puis après, c'est plus la tranquillité. Hein.
Ah. Et tu crois que s'il n'y a qu'une famille, c'est plus facile, de toute façon.
Oui, c'est plus facile avec une famille.
Non, il faut dire franchement les choses. Hein. Faut pas tout
non, eux, ils voudraient rien.
Voilà, il faut dire. Voilà.
En gros, ils disent que tu n'avais pas lieu de t'occuper de ça. Personne ne t'avait rien demandé pour eux. Mais la seule chose qui pourrait sauver, c'est de trouver une famille qui a un docteur. Là, t'es sauvé tout de suite. Ils me le disent, hein, je te jure, ça c'est vrai. Ils disent s'ils trouvent un docteur ou un truc comme ça, ça va. Là.
Voilà de la politique à petite échelle, et ça se passe dans un moment politique à grande échelle, Ariane Doublet, puisque vous êtes signataire d'un appel, qu'on dit l'appel de Calais, vous êtes témoin, vous engagez votre parole et votre nom pour que des choses soient faites, et puis à ce moment-là, François Hollande, Angela Merkel imaginent une sorte de procédé à grande échelle de répartition de certaines familles dans certains villages. Alors dans l'ordre des choses, à quel moment vous vous dites il y a peut-être un film à faire pour regarder ce qui va se passer et attendre.
Alors, pour replacer un tout petit peu les choses dans leur contexte, ce qui s'est passé à l'automne 2015, c'est qu'il y a eu la publication de la photo du petit Elan sur la plage turque, donc de ce petit enfant noyé. Et il y a eu vraiment un émoi très fort. Et à ce moment-là, c'est pour inverser un peu les choses, c'est pas une proposition de François Hollande, ce sont des maires de France, ça a démarré dans le sud-ouest,
qui ont dit...
Nous, on veut accueillir, on a des logements, on a des structures pour pouvoir accueillir des gens et qui donc ont fait la démarche d'aller au ministère de l'Intérieur rencontrer Bernard Cazeneuve. Bon, c'était au même moment à peu près que pour soulager Angela Merkel qui avait accueilli 1 million de personnes, la France proposait d'en accueillir 30 000, c'est-à-dire ce qui était déjà pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, on a pensé que les choses allaient pouvoir s'emboîter facilement. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait des logements proposés par des communes, et puis de l'autre, 30 000 personnes qui devaient être ce qu'on appelle relocalisées, qui attendaient dans des camps de réfugiés, et qui devaient pouvoir arriver, a priori, assez simplement dans ces logements. Et puis, bon, ça n'a pas été le cas. Une fois de plus, l'État a été assez défaillant. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à comprendre d'ailleurs exactement pourquoi, si c'était une lenteur de l'administration, mais certainement un manque de pragmatisme et d'efficacité qui a fait que les choses ont pris beaucoup de temps. N'ont pas été simples.
Et ce sont des choses que vous montrez par petites touches dans ce film-là. C'est un film qui commence par la voix de François Hollande et ce discours, sans les images, qui vient ce discours-là... Je ne sais pas comment dire, en dialogue avec les images de ce village, peut-être pour montrer deux échelles, deux endroits de vie, deux endroits pour penser le monde, Ariane Doublet. Mais alors ce film, dans ce contexte que vous décrivez, il arrive comment? Comment il s'impose?
Ben, en fait, c'est vrai, vous avez dit que j'avais signé l'appel de Calais. J'ai fait partie de collectifs de cinéastes pour les sans-papiers depuis les années 2000, avec des enfants de sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Et la question à la fois du droit des étrangers qui arrivent en France et la question de comment on accueille ou on n'accueille pas les personnes, le fait qu'il y ait quand même... La moitié de la planète qui ne puisse pas circuler librement sont des questions qui me préoccupent profondément. Et du coup, en fait, quand je guettais un petit peu, quand j'ai entendu que des maires se proposaient, j'ai guetté autour de chez moi, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler d'une façon locale et le plus souvent autour de chez moi. Et du coup, quand j'ai su que à Saint-Jouin-Bruneval, il commençait à réfléchir à l'idée de proposer quelque chose, j'ai contacté le maire, que je connaissais par ailleurs. Ça, c'est aussi l'avantage de faire souvent mes films dans le même coin, c'est que finalement, il y a des connexions. Je l'avais filmé dans mon film précédent. Il n'était pas resté au montage, mais on se connaissait. Donc, je l'ai appelé. Et ils pouvaient du coup se douter que j'allais passer le temps nécessaire avec eux pour raconter cette aventure, si aventure il devait y avoir, hein, parce qu'on était sûr de rien en fait. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, le conseil municipal est dans 3 jours, si tu veux, tu viens. Et donc les choses c'est parti de... Comme ça, je savais pas très bien où on allait, dans le fond, mais j'avais le point de départ de mon histoire.
Qui était ce conseil municipal où les choses seraient annoncées, seraient dites par le maire?
Oui.
C'était le point de départ.
Oui, alors évidemment, ils en avaient déjà discuté. Il faut savoir aussi que tout ne venait pas du maire. Il y avait des gens dans le village. Il y avait une femme qui avait fait plusieurs fois des voyages en Syrie et qui du coup avait déjà un petit peu constitué un petit groupe de personnes qui sollicitaient pour que un accueil soit possible. Mais c'est vrai que du coup ils pensaient beaucoup Syriens, quoi, d'accueillir des Syriens. Et en fait, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, enfin, de partir d'une situation. Je pense que de partir d'un lieu, enfin, je parle de local, mais d'une situation finalement d'un lieu ordinaire avec des gens ordinaires et de voir comment quelque chose va venir s'ajouter là-dedans et faire du coup naître la parole, faire que les gens vont se comporter d'une façon peut-être différente parce que quelque chose de nouveau va arriver dans le village. C'est toujours, je me rends compte que finalement ça traverse un certain nombre de mes films, quoi. C'est un peu le rôle de l'éclipse dans Les Terriens ou de la fermeture dans La Souterraine de Colville, ouais. Quoi, qui finalement sont des événements qui viennent se mettre dans des situations quotidiennes et qui vont raconter quelque chose, quoi, des gens.
Qui recoupe presque une parole d'un jeune homme qu'on entendra tout à l'heure, qui dit « tant que ça ne change pas le cours de nos vies ». Mais en fait, c'est l'inverse que vous filmez, vous, Ariane Doublet. C'est les endroits ou les choses qui changent le cours des vies.
Oui, le change ou le change pas, mais en tout cas, avant qu'elles arrivent, on pense que ça va changer beaucoup de choses, quoi. Et en fait, le premier extrait que vous avez passé, je me dis, mais finalement, du village, là, Philippe Panchou, qui était donc le garde champêtre dans son uniforme de policier rural, il parle déjà d'appel d'air, lui. Enfin, les gens ont peur, voilà, si on accueille une famille, qu'il y en ait 15, 20 qui arrivent, et on est en permanence dans cette, fausse problématique, en fait, et je me dis, il la reproduit immédiatement au niveau du village.
Et d'ailleurs, cette scène, on l'a choisie parce que c'est vraiment une scène qui est presque archétypale, quoi. On a deux personnages qui seraient le maire du village, quelque chose qui ressemble à, oui, l'ordre policier, garde champêtre, bref, un uniforme, quoi, mais qui se fait aussi la parole d'habitants, on en parlera tout à l'heure, qui ne s'exprime pas ou peu devant votre caméra. Et tout ça au bord d'une table avec des gens qui se connaissent très bien, manifestement, qui se tutoient. C'est-à-dire que c'est aussi une échelle de la négociation qui a trait à la vie de la cité, à la politique, qui est assez peu montrée finalement, Ariane Doublet, et qui manifestement vous intéresse.
Ben, c'est le village et les figures d'un village, elles sont incarnées immédiatement, elles sont reconnaissables par tous, donc ça permet aussi à un spectateur de s'identifier assez facilement. On reconnaît en effet l'uniforme, on reconnaît le maire, on reconnaît les lieux, il y a son église, sa boulangerie, sa rue Charles de Gaulle, et en fait... Je pense qu'à partir de là, il y a un pouvoir d'identification qui est fort en fait pour le spectateur et c'est comme un petit théâtre, hein, un village. Moi, je pouvais rester passer un peu de temps dans la rue Charles de Gaulle à attendre un peu de savoir qui j'allais. J'allais forcément rencontrer quelqu'un et les choses allaient s'enclencher. C'est tangible, c'est incarné, c'est. C'est vrai que c'est, il y a quelque chose d'assez théâtral là-dedans. Ouais.
Et il y a un autre petit théâtre qui est ce conseil municipal qui ouvre quasiment le film. Et est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, chacun est à sa place, chacun dit un peu son texte au sens où, ben voilà, on a un maire qui fait cette proposition, qui dit qu'il l'a fait en sachant qu'elle ne sera pas forcément acceptée par toutes et par tous. Et puis il y a les voix discordantes, les voix soutien. On a l'impression que finalement, tout est presque huilé, quoi, y compris dans les discours de ce garde champêtre.
Ben, moi, je savais pas. Je connaissais pas les conseils municipaux. Je savais même pas de quel bord politique était l'un ou l'autre. Mais le conseil municipal, déjà, on a parlé de l'ouverture du film avec cet effet d'annonce de François Hollande en conférence de presse, en effet, sur un champ de vaches, quoi, parce qu'il s'est monté off sur le clocher du village.
Merci d'être là.
Voilà. Et l'État dans le film, il est toujours hors champ. Il sera aussi hors champ avec le téléphone et la préfecture. Et donc, tout d'un coup, voilà, on arrive dans ce conseil municipal. Il est 20h.
52.
Il est 20h52. Il est tard, même. Ouais. Voilà. Il commence un peu tard le conseil municipal avec cette fresque de la République dans le peuple derrière le maire, et voilà, moi je débarquais un peu, hein, c'était premier tournage pour moi, et tout le monde avait accepté que je sois là, et en effet il y a, mais je dirais presque heureusement, une voix discordante, parce que j'ai su après que le conseiller de l'opposition qui était opposé au projet n'était pas là ce soir-là, mais il y a quand même heureusement quelqu'un qui dit que c'est pas si simple, qu'il faudrait pas privilégier non plus les gens qui vont arriver au détriment des habitants du village, enfin toujours le même discours comme quoi il faudrait mieux aider nos pauvres avant d'aller, voilà. Et donc mais je pense qu'un conseil municipal de toute façon c'est très huilé, hein, voilà. Donc du coup j'ai suivi tout le conseil, et alors il m'avait demandé de filmer que la question, c'était inscrit aux questions diverses d'ailleurs.
Pourquoi ? Parce qu'éventuellement les autres questions étaient plus difficiles, étaient plus conflictuelles. C'est marrant qu'ils
aient demandé que filmer ça. Parce que normalement, ça n'aurait pas forcément dû être soumis au vote, en fait. Donc les questions qui ne sont pas soumises au vote sont en questions diverses. Et puis, je pense peut-être qu'ils ont voté aussi parce que j'étais là et que je filmais et que ça avait plus de gueule, quoi.
Dans votre intention initiale, Ariane Doublet, c'est je vais filmer, je vais voir ce qui se passe, si cette famille arrive vraiment, comment elle est oui ou non accueillie, quelles sont les relations entre la municipalité et l'État, et puis la suite, où c'est je veux témoigner de ce moment qu'on traverse et qui est un peu bizarre, quoi.
Bah, je dirais que c'est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire que moi ce que je voulais c'était... La première chose, c'est de raconter une histoire, quoi, et de la prendre à son début. C'est pour ça que je guettais comme ça. Je voulais vraiment... Ensuite, à l'époque, je ne doutais pas qu'une famille arriverait dans le village. J'ai commencé à avoir des doutes parce que beaucoup de temps est passé et beaucoup d'obstacles se sont fait sentir. Et du coup, commençais à avoir des doutes. Donc oui, je dirais que c'est un peu... L'autre
version de la question, c'était est-ce qu'il y avait aussi l'idée de témoigner d'une époque qui est qu'on se retrouve dans un village à attendre une famille syrienne, que par ailleurs on regarde des journaux télé où on nous parle de milliers, centaines de milliers, d'un conflit syrien qui est extrêmement lointain pour la Normandie. Aussi de filmer juste ça, quoi, l'époque étrange.
Oui, mais c'est un tout petit bout de l'époque, hein. C'est un petit morceau, l'aventure de ce village qui va accueillir une famille. Bien que, j'ai quand même observé qu'il y a beaucoup de mères qui ont proposé des logements et que pendant toute la période où personne n'arrivait, c'était la même chose ailleurs. Je regardais, je me disais, bon, est-ce que Saint-Juin, c'est vraiment une histoire extrêmement particulière ou pas? Et en fait, non, il y avait beaucoup d'autres communes qui attendaient et beaucoup de maires qui d'ailleurs ont baissé les bras parce que garder un logement vide dans une commune, c'est pas évident. Donc il fallait beaucoup, beaucoup de ténacité pour garder ce logement plus d'un an. Et du coup, oui, c'est un petit bout de la lorgnette, quoi. Mais c'est sûr que de vouloir faire ce film à ce moment-là, parce que ces questions me préoccupent particulièrement. En ce moment, enfin déjà depuis un moment, comme je le disais, mais donc c'était parce que moi je me rendais beaucoup à Calais, mais la situation de Calais, c'est des gens qui voulaient passer en Angleterre, parce qu'à un moment le maire me disait bon, mais à un moment va chercher une famille à Calais, puis ramène-la dans l'appartement parce que on va pas garder ce logement
c'est
vide.
Surréaliste.
Et je lui disais mais les gens à Calais, d'abord je vais pas aller les chercher comme ça, ils auront aucune envie de venir, et puis eux ils veulent aller en Angleterre, donc on va. Et oui, c'était complètement surréaliste. Il y a un moment où la situation devenait... Et moi-même, je me disais, mais du coup, est-ce que le film peut tenir? Finalement, c'est en attendant Godot, c'est-à-dire qu'on attend une famille ou des gens pour cet appartement qui était comme une bonbonnière, comme une adoption d'enfant, en fait. Les lits étaient faits, tout était fait, rien ne se passait. Et je me disais, est-ce que le film, finalement, ça ne peut être que ça, quoi?
Et alors, vous répondiez quoi? S'il se passe rien, si la famille n'arrive pas, vous le sortez, le film, vous le faites, vous le montez?
Ah bah, je sais pas ce qu'aurait dit Arte, mais moi, j'étais prête à faire le film. Parce qu'en effet, il y avait de la matière sur cette attente, qui, du coup, s'est réduite forcément au montage ensuite, puisque la famille est arrivée, la partie attente, c'est finalement 20-25 minutes du film. C'est un an et demi d'attente racontée en 20-25 minutes. Donc ça, c'était aussi une gageure. Mais on était quand même tellement soulagés, pas pour le film que la famille arrive, mais c'était un soulagement. Ça paraissait tellement absurde, quoi.
Et pendant ce temps-là, donc, cette attente, il se prépare, elle se prépare.
Je visualisais un bahut au fond.
Oui, ouais.
Le canapé peut être...
En coupure de pièces.
En coupure de pièces.
D'accord.
Et puis la table,
elle peut être
à peu près comme ça.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop les encombrer non plus avec des
meubles. Non.
Et que ce soit très gai, parce que là, c'est vrai que c'est blanc. Hein.
Par contre, j'ai remarqué, ils ont beaucoup, beaucoup de tapis.
Bah oui. C'est pareil, chez Emmaüs, il y en a pas mal. Il y a pas mal de tapis, pas cher du tout. Et...
Bah nous, chez nous, on les a supprimés à cause de la poussière.
Oui, moi aussi, je les ai supprimés.
Mais eux, parce qu'en plus, ils ont tendance, je ne sais pas, les Syriens, mais, à manger par terre. À même le sol.
Je ne sais pas, là, je ne crois pas.
La télé, vous la mettez où, les filles?
C'est ça.
Il n'y a pas de prise télé.
Non, mais à ce moment-là, on met une antenne intérieure.
Ça ne capte pas beaucoup chez nous, hein, par Internet.
Ah, exactement.
Et puis même avoir les chaînes spéciales.
Tu peux peut-être mettre le meuble télé à côté.
Ils ont peut-être envie de mettre la télé là.
Ça, c'est vrai aussi.
Ils ont peut-être envie de mettre un petit rideau là-bas. Faut peut-être pas tout trop. C'est tout, c'est pas, j'ai pas d'idée, mais faut qu'ils puissent équiper leur espace à eux.
Faut qu'ils soient chez eux après.
Un extrait de votre film Ariane doublée, Les réfugiés de Saint-Juin. Ici, bon, vous le disiez tout à l'heure, en attendant Godot, en attendant la famille, l'appartement s'aménage et dans cette séquence, plein de choses, dont la question qu'est-ce que c'est au fond que accueillir? Qu'est-ce qu'on fait quand on accueille? Concrètement, quels sont les gestes qu'il faut faire? Comme si votre caméra se posait de manière très simple cette question-là.
Mais oui, mais la réponse, elle est très simple aussi, je trouve, de la part de ce groupe de bénévoles, c'est qu'il faut faire au mieux. Il faut essayer de s'adapter. Alors, ils disent « ils »,« ils ».«
Eux ».
Ils disent « ils », ils auront peut-être... Mais ils savent en plus pas, toujours pas, de qui vient, quelle nationalité, est-ce qu'il y aura des enfants, pas d'enfants, donc est-ce qu'il faut un lit de bébé, pas un lit de bébé. Et en fait, moi, ça me touche beaucoup, et ça fait rire, évidemment, cette situation de... Mais cette bonne volonté, cette idée qui... Cette femme qui se pose la question des tapis, c'était la même, qui a été pleine de petites intentions avant l'arrivée, elle rajoutait encore quelque chose pour qu'il soit encore le mieux possible. Et évidemment, il y a quelque chose de... Ça y est, un peu tragicomique, quoi. Et ils avaient mis des tableaux au mur qu'on aperçoit un petit peu dans le film avec des chameaux. Et puis, il y a un autre tableau, c'était une main qui verse du thé à la menthe. Et je me rappelle la tête de Moya, du fils syrien que j'avais rencontré auparavant quand ils sont arrivés dans l'appartement. Il était tellement touché, à la fois ça le faisait sourire, il disait, mais il faudrait qu'il n'y a pas de chameau à Damas, quoi, mais en même temps, c'est comme s'il faut inverser un peu les choses, comme si on arrivait quelque part et puis qu'on avait mis au mur, je sais pas, des baguettes de pain, pour qu'on
français.
Se sente un petit peu avec des choses familières. Bon, évidemment, ils sont un peu à côté de la plaque, c'est un peu d'ignorance, de méconnaissance, mais, donc voilà, c'est comment on fait, comment on se débrouille avec ça, quand même, comment on, mais c'est assez joli, je trouve.
Oui, mais justement, vous disiez, ça fait sourire ou c'est assez joli, mais on sent que votre caméra, elle se situe exactement à cette hauteur-là. C'est-à-dire que ça pourrait être gauche, quoi. Ça pourrait être regardé comme quelque chose de gauche, ce « eux » et ce « nous », ce « eux » qui mangent peut-être par terre, ce « eux » qui sont si différents. Et en fait, c'est pas comme ça que vous les filmez.
Ah bah j'espère que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que... Bon, on fait beaucoup de choix hein, quand on démarre un film, on choisit aussi les gens qu'on va filmer. On a des attirances pour certains et puis moi je m'assure toujours qu'il va y avoir une connivence entre moi et les gens que je vais filmer, qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, qu'on a envie de construire le film ensemble, je cherche jamais à leur faire oublier la caméra. Même à tel point, une petite anecdote, c'est que cette histoire de tapis, donc tout le monde était en train de partir dans tous les sens dans des pièces de l'appartement, chacun y allait de son canapé, de sa télé, et puis tout d'un coup j'entends, mais j'étais pas en train de le filmer, cette histoire de tapis. Et du coup, je me dis, ah, j'ai raté ça, c'est dommage, c'était... Et du coup, j'y suis retournée, j'ai dit, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Et elles ont recommencé en pleine conscience que voilà, j'avais raté cette petite histoire et qu'elle pouvait recommencer, quoi. Donc c'est un échange permanent et si on n'est pas à la même... J'ai jamais de surplomb pour les gens que je filme, enfin, ça me serait très désagréable. Comme me serait désagréable l'impression qu'ils ont plus conscience de la caméra, de ma présence, que... Donc je suis en général de face, près d'eux, et puis on partage ce moment, quoi.
Et alors, votre deal avec eux, ou plutôt eux, leur position, c'est laquelle? Si vous dites, il faut que nous soyons conscients des envies des uns et des autres, que eux aussi sont en train d'agir en participant à ce film-là, alors vous diriez que ce petit groupe ou ces individus que vous choisissez, quelles sont leurs motivations?
Alors ça, c'est assez mystérieux. Toujours, je me pose souvent cette question. En plus, il y a parmi les gens que je filme parfois une capacité de savoir se mettre en scène soi-même, qui est assez mystérieuse. Je pense que ça leur demande forcément une grande part d'abandon aussi, c'est-à-dire ils me font confiance, ils me remettent quelque chose de où ils se laissent faire en fait aussi. Il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accord tacite de confiance, quoi. Après, ça peut arriver que quelqu'un me dise, écoute, je sais pas, à ce moment, peut-être...
Je le sens pas.
Je le sens pas, voilà. Et donc ça, je vais toujours essayer d'en tenir compte. Mais on se retrouve à filmer des morceaux de personnes, enfin, parce qu'on... c'est pas des portraits de gens non plus, c'est des petits moments, des petits passages de leur vie, des choses qui leur... Je fais jamais d'entretien, moi, avec les gens que je filme. C'est jamais dans un face-à-face où là, on va parler pendant 2 heures et puis après, je vais en faire un montage. C'est d'ailleurs davantage que ma relation avec eux qui est intrinsèque, dont j'ai besoin pour que le film fonctionne, c'est plus les relations des gens entre eux qui m'amusent de filmer. C'est plus la relation du garde champêtre avec le maire, des bénévoles entre eux, de qui aura gain de cause sur la place de la télé, de, ça peut paraître des choses parfois très anecdotiques. Mais du coup, ça se construit pas forcément non plus sur la parole, c'est des présences des uns, c'est un moment où je vais filmer une scène, tout d'un coup, ben je vais pas forcément filmer celui qui est en train de parler, il y en a un qui est dans un coin qui est en train de je sais pas, qui a une belle présence à ce moment-là, donc c'est intuitivement sur le moment.
D'ailleurs, c'est pas rien la voix de cet homme qui dit pardon, enfin j'ai pas beaucoup d'idées, mais je voudrais juste te dire que peut-être qu'ils auront envie de faire comme ils veulent, et que pour lui, l'accueil, c'est peut-être de ce côté-là, du côté de juste ouvrir la porte et ensuite de laisser les uns et les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est assez beau le contrepoint qu'il amène à ces femmes qui, par ailleurs, font, je crois, tout ce qu'elles peuvent pour que ce soit le mieux possible.
Oui, bah en fait, ce qui s'était trouvé, c'est que les tâches s'étaient un petit peu réparties. Il y avait ceux qui faisaient la peinture, ceux qui allaient faire la plomberie, ceux qui allaient s'occuper de l'aménagement. Il se trouve que comme par hasard, dans le groupe aménagement, il n'y avait que des femmes. Et que cet homme était là parce que, je sais plus, il était venu observer autre chose. Et que du coup, il se retrouvait un petit peu extérieur à la discussion et pouvait observer assez facilement qu'en effet, si on continuait comme ça, il allait y avoir des meubles absolument partout et que peut-être il fallait prémunir et les mettre en garde d'un trop grand encombrement. Et moi, ça m'a gêné presque un peu que tout d'un coup, voilà, la voix qui s'élève, ce soit une voix masculine face à ce groupe de femmes. Il y avait quelque chose qui, on a failli ne pas le garder au montage, même parce que c'était un peu abrupt comme ça. Mais finalement, il dit exactement ce qu'on est en train de penser en tant que spectateur.
Bien sûr.
Ouais.
Et il le dit,
donc,
je crois.
Donc il vient soulager quelque chose.
Quand même. Et il le dit peut-être pas tellement du côté de depuis son genre masculin que depuis un autre endroit. Mais pour terminer sur cette scène-là, Ariane Doublé, ce que ça dit aussi, c'est encore cette différence d'échelle. C'est tant de soins jusque la serviette de bain qui est déjà sur la baignoire, plein de petites attentions, etc. Donc tant de gestes d'accueil, en fait. Et pour en revenir à l'autre échelle qui est l'échelle avec laquelle vous ouvrez le film, tant de difficultés, tant d'atermoiements, tant de galères politiques, tant de rien et d'inaction face à un accueil un peu plus politiquement structuré, je trouve que c'est quand même une tension qui est extrêmement présente dans cette scène-là, quand même, quand vous les filmez, Ariane Doublé.
Mais oui, mais c'est parce que, en fait, je pense que quand on s'approche de... Je reviens encore au local, mais... aux choses, quand elles sont incarnées, on s'approche de chaleur humaine, on s'approche d'humanité, et on est bien loin, en effet, de la parole.
De qui va prendre tel pourcentage des réfugiés, qui
voilà,
va accueillir la
Corée. On s'éloigne des chiffres, on s'éloigne de grands discours qui, en fait, finalement, c'est les grands discours aussi qui font que les gens s'éloignent de la réalité et finissent par croire à cette histoire d'appel d'air, finissent par croire que c'est impossible d'accueillir 30 000 réfugiés en France, alors que ils le disent souvent dans le film, si chaque village accueillait une famille, alors là, tout serait plus simple, quoi. Donc, c'est une façon, en fait, moi je démarre le film, je sais pas du tout comment ça va se passer. Il y a plein d'inconnus. D'abord, est-ce que la famille qui va arriver, elle sera d'accord pour être filmée? Est-ce que des gens qui ont besoin à ce moment-là d'une grande tranquillité, enfin pour qui sont dans une fragilité immense, en plus accepteront, m'accueilleront à leur tour dans leur vie, quoi. Il y a ça. Il y a bon, est-ce que les gens vont vraiment arriver? Mais il y a comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer, mal se passer finalement? Parce qu'il y a eu quand même des prémices un peu inquiétants pendant la période d'attente. Et du coup, je savais pas non plus du tout si j'allais faire un film un peu optimiste ou très pessimiste sur la capacité qu'ont les gens de réellement accueillir jusqu'au bout, quoi. Bon, et encore une fois, Saint-Juin est pas un cas particulier, parce que finalement, il y a quand même eu des communes qui ont accueilli avec beaucoup de patience et partout, ça se passe bien.
Il y a toute une série d'intermédiaires, et que ces intermédiaires sont des intermédiaires mensongers. Nous rétrécissons le temps, nous l'allongeons, nous choisissons un angle de prise de vue, nous déformons les personnages, nous accélérons un mouvement, et nous suivons ce mouvement au détriment d'un autre mouvement. Donc il y a là tout un travail, un travail de mensonge. Mais, si vous voulez, en nous revendiquant quand même ce terme, en ce sens que pour moi, ce mensonge était plus réel que la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes et de faits humains qui nous entourent, de témoignages, qui ne peuvent être que des témoignages mensongers, qui sont ce que disent des gens dans un certain état qui ne diraient jamais autrement. Qui sont le fait que, par exemple, ce que je dis devant ce micro, je ne le dirais pas si nous étions en face d'un pot de bière, simplement parce qu'il y a un micro. Il y a donc là un phénomène très étrange, et ce phénomène très étrange est une sorte de catalyseur qui permet de révéler, sans doute, une partie entièrement fictive de chacun d'entre nous, mais qui, pour moi, est la facette la plus réelle de l'individu.
Il y a une famille de migrants qui va venir au-dessus de la boucherie. Enfin, c'est pas autre chose.
En fait, on en a entendu parler qu'une seule fois, puis maintenant, plus rien.
Ouais.
Même à proxy ou quoi, personne n'en parle. Je pense que c'est au moment où ils vont arriver que là, ça a parlé dans le village. Qui sont là, machin.
Enfin, moi, perso, je m'en fiche un peu, en fait. Ils viennent pas, je m'en fiche.
Tant que ça change pas le cours de notre vie.
Ouais.
Bah, ils vont être mal accueillis, je pense, hein, par certaines personnes. À Saint-Jouin, ils sont mal accueillis. Non, mais c'est après, il y a toujours des gens que...
T'as du mal à positiver, toi.
Mais non, mais c'est vrai. Mets-toi à leur place. Ils arrivent dans un village qu'ils connaissent pas, en plus à la campagne.
Bah oui, bah c'est bon, pareil que la Syrie, hein, la campagne.
Non, mais même... Les personnes étrangères dans un village en pleine campagne, il y a des gens, des anciens ou par exemple des agriculteurs ou quoi, ils vont être contre ça. À la campagne, ils sont un peu racistes.
Même les vieilles personnes qui habitent là-bas, qui habitent ici depuis longtemps, ils vont pas vouloir le changement comme ça.
Putain, dans ce bled.
Ouais, vivement l'été.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richaud.
La voix de Mélissa Lavo, juste avant la voix de jeunes hommes que vous filmez, Ariane Doublé, dans le film Les réfugiés de Saint-Juin, qui va être diffusée donc le 23 octobre prochain sur Arte, et juste avant celle de Jean Rouch en 1976, qui revient sur ce terme qui a été très utilisé, notamment à l'égard de son cinéma, le cinéma vérité, qui en fait pour lui est un deal avec le mensonge et avec la partie fictive de chacun. Je ne dis pas la même chose devant ce micro que si j'étais devant un pot de bière, moi non plus j'imagine d'ailleurs, à Anne Doublet, mais quand on entend ces jeunes hommes, on le pense aussi, on se dit, il y a une conscience, vous le disiez tout à l'heure, il y a une conscience de ce qu'on est en train de faire, une conscience de à qui on parle devant la caméra. Comment est-ce que vous le réfléchissez, ça, cette idée que peut-être il y a quelque chose de, peut-être pas de mensonger, pour reprendre les termes de Jean Rouch, ou je ne sais pas.
Jean Rouch, il dit, il parle d'angle, en fait. On fait en permanence des choix, on choisit des angles de prise de vue, on choisit les gens qu'on va filmer plus que d'autres. On va donc, en permanence, dans ces choix, finalement, on tord quelque chose de la vérité. Mais moi, c'est une question que je me pose pas tellement, la question de la vérité au moment où je filme. C'est pas... Après, il dit autre chose, c'est en effet le pot de bière. Ça, c'est vraiment une question qui est sans... Enfin, je choisis quand même à chaque fois où je vais amener les gens pour que la parole soit plus facile, qu'elle puisse venir un peu plus facilement.
Comment donc dire, là, dans une sorte de mise en scène, quoi. Là, ils sont à un endroit, ou après à la plage, ou dans...
Exactement, c'est-à-dire que, par exemple, Panchou, là, le garde champêtre, au départ, c'était un vrai courant d'air. J'avais absolument une difficulté à le... Je pense qu'il fuyait un peu, et puis il avait pas envie de dire ce qu'il pensait, et puis il considérait qu'il était pas là pour ça, et puis en fait, quand j'arrivais à peu près à passer un moment avec lui, il se mettait absolument à parler comme au journal télévisé, quoi. Un truc, d'une espèce de parole, voilà, ben, devant une caméra, il faut que la parole, elle soit comme ça, et pas autrement, et donc je m'en sortais
pas. Très
formaté. Voilà. Oui, très 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 formaté, mais ça, c'est un problème qu'on rencontre maintenant assez souvent, hein. C'est les gens ont intégré comment il fallait parler devant une caméra, et voilà, la parole un peu, entre guillemets, officielle, donc on va parler comme on parle à la télé. Donc il m'a fallu du temps avec Panchou, et à un moment je me suis dit, et ça m'a paru comme une évidence, qu'il fallait filmer Panchou dans sa voiture. Qu'une voiture, c'était un habitacle. D'abord, on allait être coincés tous les deux là-dedans, et que lui, c'était une grande partie de son travail, la voiture, parce qu'il va tout le temps d'un point à un autre, il va chez les gens, il faisait sa distribution de courrier. Donc moi, je faisais la distribution du courrier avec Panchou le matin, et je restais dans la voiture, et après, il parlait ou il parlait pas. Je pouvais poser une question, mais dans une voiture, c'est pas très gênant. On roule, si on se parle pas, le temps passe comme ça, et puis on est présent l'un pour l'autre, et puis du coup, on apprend un peu à se connaître et à se rassurer un peu mutuellement comme ça. Et donc, les choses sont venues plus facilement. Les jeunes, je leur ai un peu couru après aussi, parce que, bon, quand même... Moi, ce qui me questionnait, c'est que on voit ce groupe de bénévoles, il y a quasiment que des retraités dans le groupe de bénévoles, et que les jeunes du village, sur cette question, on les voyait jamais. Aux réunions, ils venaient pas. Puis, on pouvait quand même... imaginez que dans la famille qui allait venir, il y aurait peut-être un jeune de leur âge. Et c'est à partir du moment où je leur ai dit ça, en fait, que tout d'un coup, ça les a, ils se sont dit, ah bah oui, quand même. C'est dès qu'on inverse un peu les choses. Si moi, je me retrouvais loin, comme ça, avec... Et du coup, ça les a un petit peu sensibilisés, un petit peu... Et puis finalement, la discussion, elle est venue. J'étais un peu embêtée d'ailleurs, parce que j'avais pas du tout rencontré les parents avant, alors que c'est des tout jeunes, hein, ils ont 13, 14. Et puis encore une fois, ce qui était bien, c'est que finalement dans l'échange, il y en a un qui est pas forcément d'accord avec les autres, quoi. Mais ils avancent aussi, ils parlent de changement, comme si ça allait être ils réemploient aussi.
Peut-être parce qu'ils en ont envie, et peut-être parce qu'ils réemploient aussi des choses qui sont toutes faites, toutes dites, prêtes à l'emploi dans le discours. On peut difficilement faire abstraction, à rien doubler, que les discours portés sur les questions de migration, d'accueil des réfugiés, ils ont été extrêmement formatés aussi. C'est des espèces de petites bombes comme ça qu'on lâche sans que ça n'ait vraiment plus de raccroche avec le réel.
Oui, complètement.
Et du coup, vous attendiez aussi à récolter cette parole-là, cette parole qui est plus tellement en lien avec ce qui se passe réellement.
Cette parole-là, elle vient, elle est un peu présente, mais je montre tout à fait autre chose. Et c'est vrai que si je choisis d'être là à ce moment-là, c'est en effet pour montrer autre chose que cette parole ambiante, ce discours ambiant et ce... Donc, mais enfin bon, les gens regardent la télévision, hein, et on le sent. et les gens du coup ressortent des espèces de mots comme ça, on parle de flux, on parle de vagues, on parle de, et puis les gens se réapproprient ce vocabulaire et puis ils savent même plus pourquoi ils l'emploient, mais donc c'est un croisement en fait, je dirais, c'est comme, enfin, c'est Panchou, il est vraiment à ce croisement là. Il est au croisement de beaucoup de choses.
D'ailleurs, il dit qu'il porte beaucoup la parole. Il dit qu'il porte beaucoup la parole des autres. Hein. Il parle rarement en son nom.
Voilà, il parle rarement en son nom. Il est, pour moi, c'est un personnage essentiel au film Philippe Panchou, parce que je me suis demandé comment la parole de l'hostilité à cet accueil allait pouvoir être incarnée.
Parce qu'il voulait pas vous parler du tout, les personnes qui refusaient.
Alors
qui, par exemple,
j'ai parlé avec certains qui d'ailleurs tous à chaque fois au moment de se parler se défendaient d'être contre l'accueil, mais je savais que c'était le cas, mais tout d'un coup cette parole-là elle était plus assumée. On n'est pas dans le Var hein, non plus, on est en Normandie, donc voilà, on est un peu plus, on va pas trop se mettre en avant si on est contre quelque chose. On va se le dire entre soi, entre gens qui sont pas d'accord, mais quand il y a, donc j'avais du mal avec ça, et puis j'avais pas du tout envie de faire porter cette parole à une personne, quoi. Ça aurait pas eu de sens. J'ai essayé pas mal de m'incruster au café. Et ça a été, à chaque fois, le buraliste trouvait des bonnes excuses pour... mais ça allait du fait qu'il y avait des sigles de PMU et tout ça, et que je pouvais pas filmer ça. Enfin, il trouvait à chaque fois des bonnes excuses pour pas que je puisse traîner un peu au café, rester, voir un peu les... Et du coup, Panchou, il est vraiment, comme il est finalement employé municipal, son boulot, c'est de rapporter au maire tout ce qu'on dit dans le village. Et donc, lui, il faut qu'il soit bien avec tout le monde. Il faut qu'il soit bien avec ceux qui sont contre, avec ceux qui sont pour, avec toutes les opinions politiques. De préférence, il vaut mieux pas qu'on connaisse les siennes, comme ça, chacun va lui parler. Et lui-même est plein de contradictions. Et du coup, à lui seul, je trouve c'est un personnage pivot qui voilà, parce que c'est aussi toujours intéressant hein, de filmer les paradoxes chez les gens, c'est leurs contradictions. Donc heureusement qu'il était là.
Je me suis écarté du bocage flamand et j'ai été sur le bord de à peu près une centaine de kilomètres sur les bords de Manche. C'est la côte d'Opale en fait. C'est entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Et c'est des paysages à la fois de dunes, de bois et de marais qui sont assez, assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de variété, de concentration de paysages tout à fait étonnante et qui vont bien à l'évocation de notre nature. Je ressens la complexité et la variété de notre nature dans ces paysages. Donc, comme j'ai besoin d'exprimer la complexité de notre nature, il faut que j'ai des paysages qui le montrent et qui le représentent. Et moi, je vais me contenter de raconter une histoire sur ces fonds, parce que ces fonds vont être à l'évocation de quelque chose de beaucoup plus profond, mais que je peux pas atteindre autrement. شايف السما شو بعيد بعد السما بحبك بحبك يا غصوني بحبك يا حبيبي بحبك كبر البحر وغاد السما بحبك يا بابا يا حبيبتي بحبك
الله يخليك اياك لا يا حبيبتي
والله
الحمد لله على السلامة
والله لولا حبي إلها ما بجي بس حبي إلها رماني إنه إجي وتشرفت بهالحل بهالناس اللي الطيبين الراقيين
غاس أموال ليلى Sinon, elle ne peut pas quitter la Syrie. C'est très, très dur de quitter la Syrie, mais... Elle est en train de se faire un peu. Elle est en train de se faire un peu. Elle est en train de se faire un peu. Elle est en train de se faire un peu. Un jour, on viendra sur cette plage et on apportera notre repas. Et est-ce qu'il y aura des falafels? Oui, il y en aura. On mangera des sandwichs au falafel quand viendra l'été. Un jour, cette famille est arrivée dans le village que vous avez filmé, Ariane Doublé. Et ici, on entend le père et la fille chanter face à la mère, chanter une chanson d'amour filial, d'amour absolu. Et derrière ça, le père dit que c'est cet amour-là qui était la force pour l'exil si difficile, si impossible à envisager. Et juste avant, on entendait la voix de Bruno Dumont dire que la manière dont il filmait les paysages, c'était une manière pour lui de filmer la complexité de l'être humain, la complexité de l'intériorité des humains, peut-être les paradoxes de ces êtres humains. Et je trouve que, comme vous filmez ce village, comme vous filmez cette plage, comme vous filmez la mer, qui est à la fois l'horizon, la rêverie et en même temps le cimetière humain que l'on sait maintenant, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme vous filmez aussi cet endroit depuis tant de films, en fait.
Oui, mais alors ce qui est... Bruno Dumont, il parlait de la particularité des personnages, des paysages du Nord. Moi, en fait, le fait que je tourne en Normandie, c'est pas la Normandie qui veut ça. Je serais dans une autre région. Je pense que j'ancrerais.
Pour lui aussi, je pense. Ça joue peut-être.
Sans doute. Oui, sans doute. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il y a une lumière magnifique. Il parle des paysages, mais c'est vrai qu'il y a une très belle lumière. Et on a entendu l'extrait du père et sa fille, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un père et une fille qui se retrouvent, en fait, parce que la fille a été la première à arriver en France parce que grièvement blessée, elle a été évacuée. Son père l'a laissée entre la vie et la mort, et elle a été assez miraculeusement sauvée d'ailleurs, et donc il se retrouve après 3 ans de séparation. Et il se retrouve par le chant beaucoup, parce que tous les deux aiment chanter, et sans doute aussi par générosité vis-à-vis de moi, parce que le chant, ça se partage. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Alors Gossoun, la fille, elle parle français, mais son père parle pas français, la famille qui arrivait parlait pas du tout français. Et c'est quelque chose qui, moi, me fait pas peur, parce que c'est vrai que je disais, les choses passent pas forcément par la parole, mais par de la présence. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec eux aussi, sans les filmer. Je les accompagnais dans les démarches à la préfecture. Et donc, les liens, ils se sont tissés entre nous petit à petit. Mais ça, c'est le lendemain de l'arrivée, cette scène sur la plage. Et ils n'avaient pas encore vu la plage, et je voulais qu'ils prennent l'air, quoi. Je voulais qu'il y ait l'horizon, je voulais qu'il y ait quelque chose de la lumière de la mer, quelque chose de... Parce qu'on m'avait dit, Moya, le fils, qui était lui aussi déjà en France, m'avait dit, mon père, il adore la mer, quoi. Donc je les ai emmenés sur cette plage, et puis la suite de leur conversation, d'ailleurs, sur la mer, dit que... La fille dit, moi, la mer, je la vois plus de la même façon, parce qu'avec tous les gens qui ont perdu la vie...
Et par conséquent, nous non plus, nous ne regardons pas cette mer que vous filmez, rien d'oublier, uniquement comme cet endroit sublime de Normandie plein de lumière. C'est tout à fait... le contraste, c'est entaché. On peut pas du tout, dans votre film en tout cas, on peut plus la regarder comme ça, juste un père et une fille devant l'horizon.
On peut plus regarder la mer de la même façon. Et à peine arrivé, c'est-à-dire que le lendemain de l'arrivée, ils évoquent déjà la possibilité de jours heureux sur cette plage, quoi, ce qui est quand même ce qui était assez fort. Et du coup, moi, j'ai toujours gardé ce moment en tête, en me disant, le jour où ils reviendront avec des falafels sur la plage, quand il fera beau et que peut-être le petit Moise se baignera, en effet, quelque chose, il y a un pas qui aurait été franchi, quelque chose se sera un petit peu installé. Et c'est la dernière scène du film, et c'est la dernière scène qu'on a tournée, en fait. Je me suis arrêtée là, parce que c'était compliqué aussi de savoir quand s'arrêter, parce que il y avait toujours des choses nouvelles pour eux, l'apprentissage du français, la naissance d'un enfant aussi qui est né en France. Enfin, et je me disais, il va y avoir la rentrée à l'école du petit Moise, et j'aurais pu continuer comme ça, faire un feuilleton sur la famille Hamoud en Normandie. Et puis bon, il fallait bien s'arrêter, et c'est vraiment le jour où ils ont mangé les falafels au soleil sur la plage.
Parce que d'une certaine manière, promesse tenue, en tout cas, c'est ça qui se joue pour nous devant le film. Quand ils mangent ces falafels, c'est la promesse tenue, la promesse de l'exil, quoi, la promesse aussi faite par la fille au père.
Et néanmoins, c'est pas que la joie, quoi. C'est pas que ce petit Moaz qui joue sur la plage, à qui on souhaite, je crois, vraiment la plus belle vie. Mais quand on voit ces deux personnes âgées, on se défait pas du tout de la morsure de l'exil, même dans cette dernière scène. Vraiment, mais pas du tout. Pourtant, c'est doux, hein.
Oui, c'est doux, mais en fait, donc, cette famille est arrivée avec 3 générations. Avec les grands-parents, les parents et le petit Moaz, donc Amer et Fatima qui ont 23 ans à peu près, le petit, donc c'est 3 façons de vivre l'exil qui sont complètement différentes et on sent bien que les grands-parents, ben, ils tentent une espèce de regroupement familial, quelque chose, mais qui sont complètement déchirés et que le grand-père a même pas du tout l'intention d'apprendre le français. On le voit très vite quand il regarde sa femme essayer de dire des mots en français, mais que lui reste les bras croisés, assez dubitatif.
Par contre, on se dit que cet enfant qui joue sur la plage, voilà, peut-être que bon, pour lui, vraiment, tout est devant, quoi.
Ouais, bah aujourd'hui, Moaz, il parle français, et les jeunes ont appris le français quand même très vite. Amer, il a passé son code de la route en français, là, 1 an après être arrivé, donc il l'a eu du premier coup. Et il y a une volonté, là, pour eux de faire leur vie en France, qui peut pas être le cas des grands-parents. Il y a quelque chose de, ouais, c'est, la dernière scène, il y a beaucoup de mélancolie, et puis il y a quelque chose, bon, bah, les falafels sont là, le petit garçon est là, il fait beau, il y a...
Mais on est en Normandie, quoi.
Mais on est en Normandie, voilà.
Une citerne de larmes posée sur mon cœur. Je ravale l'eau de mes yeux en silence. Des mots servent de cage. Parfois même, c'est d'une seule lettre que nous sommes prisonniers. Ils ont transformé les chiffres en numéros de dossier et notre amour en un combat à le temps. Le lieu de naissance n'est pas conforme. La régularité du passeport n'est pas reconnue. La validité du titre de séjour est expirée. Ils déversent leurs exigences comme un pétrole qui pollue notre océan. Et nous étouffons au pied des murs de leurs préoccupations. Pourtant, je ne connais de frontières que celles de mon corps. Je voudrais vivre blottie contre sa poitrine, ma seule patrie. Vivre libre de l'enlacer quand son regard me touche. Vivre libre de l'aimer. Au lieu de ça, je suffoque. Le mouchoir de leur bêtise s'enfonce dans ma gorge. Les doigts rigides de leurs règles se resserrent autour de mon cou. Les ongles de leur administration déchirent mon ventre. Je ne cesse de m'interroger sur le sens de leur pouvoir mortifère. Ils sèment la mort dans le champ de fleurs de notre innocence et gobent nos rêves comme les corbeaux les yeux des cadavres. Alors, notre volonté petit à petit s'effrite comme une vieille fresque et notre espoir, tel le souffle de celui qui se noie, s'épuise et se brise. Et notre amour est aussi têtu que nos âmes. Comme un rocher immobile au milieu d'une tempête d'humiliation. Comme un rocher immobile au milieu d'une tempête d'humiliation. Désespérés, nous sommes pleins d'espoir. Chaque jour prisonniers, nous restons libres. Libres de nous aimer. Libres de nous aimer. En attendant la lumière dans le noir.
Cette merveilleuse Naïsam Jalal, flûtiste et auteur aussi, on l'entend, de ce morceau qu'elle fait avec Rhythm of Resistance. Peut-être pour terminer, Ariane Doublé, vous disiez tout à l'heure, en début d'entretien, que ce film-là, il existe parce que il vient dans le sillon de questions que vous vous posez sur l'accueil que l'on réserve aux étrangers depuis tant d'années. Qui avez-vous appris ?
Ce que j'y ai appris.
Est-ce que vous êtes désespérée mais pleine d'espoir, comme le dit là Naïsam Jalal ?
Alors,
2 questions.
En fait, j'y ai vu ce que pouvait être quelque chose de réparateur dans l'accueil, parce que finalement, quand même, Ils ont retrouvé une liberté, les Hamouds, en arrivant en France, qu'ils avaient complètement perdu en Syrie, parce que emprisonnés, parce que torturés, parce qu'ils ont perdu des enfants. Donc, ils ont retrouvé la paix en France. Ils ont trouvé que oui, il y avait beaucoup de questions de papier, mais finalement, pour eux, les questions de papier n'étaient pas trop compliquées à résoudre. Donc, mais ce que j'y ai appris, c'est qu'il peut y avoir, d'un côté, il y a une France qui accueille vraiment. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de particuliers qui accueillent des jeunes mineurs chez eux. Il y a beaucoup de et je pense que l'État se trompe, quoi. Il veut rendre les choses impossibles, alors que là, on voit qu'avec ténacité et courage, les choses se font. Et du coup, j'ai appris qu'il fallait pas lâcher, quoi.
Donc vous êtes désespérée mais pleine d'espoir, ou peut-être pas du tout désespérée.
Je trouve que les choses pourraient être plus simples, franchement.
Lorsque vous filmez le dépouillement des bulletins qui montrent une manière d'égrener comme ça le nom du parti, Front National, Front National, Front National, Front National, qu'est-ce que vous nous dites, Ariane Doublet ?
Je filme ça sur le visage du maire, hein. Je filme pas les bulletins de vote, je filme le maire avec la mâchoire complètement qui se met à trembler, enfin qui est dans un état de fébrilité et c'était quand même là. On pouvait s'y attendre. C'était pareil dans toutes les communes. C'est vraiment à ces élections régionales que le Front National a percé dans la région, puisqu'on emploie le mot de percer, mais enfin voilà, augmenter ses scores. C'était pas lié à la proposition d'accueil. Au contraire, je crois que le maire, il espère que le fait d'avoir accueilli, que cette famille soit là,
qui est du réel aussi.
Qui est du réel, que finalement ça calme un peu les esprits, que les gens se disent, bah finalement, on s'est fait toute une montagne pour quelque chose d'assez simple. Et puis, il y a des gens qui ont changé un peu de discours après l'arrivée des Hamouds, à commencer par le garde champêtre. Et du coup, désespérant cette soirée avec les scrutateurs Front National qui sont là, qui étaient très le visage très fermé. Hein, c'était pas facile de parler avec eux, mais c'est un moment assez tragique. Et puis après, on remonte dans la voiture avec Panchou, et puis il analyse ça avec les années passées. Ben avant, on était de droite, après c'était la gauche et la droite. Maintenant, c'est la gauche et le Front National, et puis ça rechangera. Il faut espérer que ça rechangera.
Merci beaucoup d'être passé par ici. Les réfugiés de Saint-Jouin, c'est donc diffusé le 23 octobre prochain sur Arte et pendant un mois ensuite en replay sur le site internet et peut-être en DVD un jour.
Bah peut-être, oui.
Bah oui, comme le reste de votre travail, on peut trouver par exemple un grand coffret qui est paru aux éditions Montparnasse et qui s'appelait Suite Normande. Merci Ariane.
Merci beaucoup.
Au son ce soir, c'était Cédric Châtelu à la réalisation Lise-Marie Barré. On se retrouve par les temps qui courent à 21h demain sur France Culture, quand vous voulez, absolument quand vous voulez, sur franceculture.fr. Abonnez-vous au podcast et puis diffusez ça autour de vous. Qui je remercie ? Tout le monde, Jeanne Aléos, Anna Baron, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier. Ils m'aident à penser et préparer ces émissions tous les jours. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur France Culture.